Voix Nue. Toute cette semaine, Alain Lefkovitch rencontre Dounia Bouzard. Ce soir, être français de confession musulmane.
Bonsoir Dounia Bouzard, vous êtes anthropologue, spécialiste du fait religieux et des phénomènes de radicalisation que vous dénoncez et combattez depuis plus de 15 ans, et notamment depuis avril 2014, avec le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Hier soir, nous terminions notre entretien sur toutes les coutures défaites de votre existence et que vous avez dû recoudre, et notamment à cette période de votre vie où vous devenez musulmane, période concomitante à votre nomination par Nicolas Sarkozy au CFCM, au Conseil français du culte musulman que vous allez finir par quitter.
C'est Xavier Ternicien qui m'appelle un jour et qui me dit « C'est qui est algérien? C'est qui est français chez vos parents ?» Je lui dis « Mais pourquoi vous me demandez ça? Vous êtes qui ?» Et ce journaliste du Monde me dit « Ah ben c'est vous qui allez faire lien entre les musulmans et les non-musulmans dorénavant. Vous allez bientôt l'apprendre dans quelques minutes. » Et il raccroche une fois que je lui ai dit « Ma mère athée et mon père, voilà, ça se passe comme ça. »
Alors vous finissez en 2005 par quitter ce conseil français du culte musulman.
Parce que justement je peux pas faire lien entre les musulmans et les non-musulmans. Donc la raison pour laquelle j'ai été nommée, elle fonctionne pas, donc je pars.
Alors en 2005, c'est aussi l'année des émeutes en banlieue. Et là, le monde médiatique, la France, va découvrir les banlieues. C'est quelque chose qui vous choque à l'époque
Ce qui me choque, c'est qu'on les découvre. Ce qui me choque, c'est qu'on les découvre. Moi, j'y suis immergée donc, depuis des années maintenant. Et tout d'un coup, on dirait qu'il y a une prise de conscience des politiques, et moi ça me fait complètement paniquer.
Sachant que le film de Mathieu Kassovitz, La haine, est sorti 10 ans avant.
Absolument. Ce décalage entre les politiques et le monde réel, il fait vraiment peur quand on est sur le terrain. On perd complètement confiance en ses élus. Ça a un côté paniquant. Le décalage est énorme. Et on comprend presque les jeunes qui n'y croient plus. À la politique. Et c'est justement, quand on est éducateur, l'objectif, c'est que le jeune reprenne confiance en l'adulte, qu'il reprenne confiance en la politique, et qu'il soit pas dans une logique, justement, du plus fort qui gagne, qui s'inscrive dans une grille de lecture construite, évolutive. Quand on entend les politiques, moi, j'ai presque plus peur des politiques que des jeunes à ce moment-là. Je panique complètement en entendant toutes les déclarations et puis les politiques découvrir les jeunes, finalement. C'est deux mondes qui se rencontrent. Ah, pour moi, c'est très paniquant. Mais c'est pas paniquant en voyant les jeunes, c'est paniquant en écoutant les politiques.
Dounia Bouzard, il y a la classe médiatique aussi qui se rend, je me souviens à l'époque, dans ces quartiers difficiles, où je me souviens de Libération qui publie un lexique pour apprendre à parler le langage des banlieues. Il y a cette scène dans ce film La haine où on voit cette journaliste carapatée dans son véhicule avec ce caméraman qui sort la tête de la voiture pour filmer comme s'il était à Thoiry. On est en 2005, il y a ces émeutes et la classe politique découvre le poteau rose. Vous, ça fait depuis 2001 que vous alertez les pouvoirs publics sur ce qui se passe dans ces quartiers, sur le malaise de ces jeunes, sur le fait qu'on leur demande de se sentir républicains alors que l'histoire, la colonisation, la guerre d'Algérie, la façon dont les Algériens ont été accueillis en France par la suite, on a toujours montré à ces gens qu'ils n'étaient pas totalement français.
On leur montre encore. C'est plutôt ça. C'est que même quand le jeune finalement grandit à l'école de la République est complètement de culture française et a un inconscient complètement de culture française, le problème c'est que le regard des autres le regarde encore comme un étranger et comme un gamin qui n'est pas le même. C'est ça qui les fait bugger. C'est le décalage entre ce qu'ils ont l'impression d'être. Ce qui sont au fond d'eux-mêmes et le regard qui est porté sur eux en les renvoyant toujours à une autre histoire ou à une autre culture ou à une autre religion alors qu'au fond ils se sentent les mêmes avant cet éclatement. C'est le regard des autres qui les renvoie à une différence et c'est ce décalage entre comment ils se sentent et comment ils sont perçus qui finalement crée des tas de dysfonctionnements au sens où du coup ils se sentent stigmatisés ou on leur parle de telle ou telle façon, on s'adresse à eux de telle ou telle façon, etc. Mais ça, En étant sur le terrain, moi j'ai écrit dessus plusieurs ouvrages, je l'ai analysé, je l'ai travaillé avec les jeunes. Et quand je découvre le décalage de la classe politique avec cette réalité, moi-même je me dis mais comment on va y arriver? Parce que les jeunes de leur côté, on les considère vraiment comme des étrangers, même les journalistes, comme vous venez de le dire, ils les perçoivent comme, je vais pas dire des bêtes étranges, mais en tout cas des gens d'ailleurs. Or, ces jeunes se sentent profondément similaires. Et on continue à les enfermer dans une pseudo-différence, dans une pseudo-altérité qu'on va payer cher. Parce qu'à force d'enfermer quelqu'un dans une différenciation extrême, bah, la personne s'approprie la façon dont on la regarde. On va la payer très cher pendant des années et des années, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas comme un Français à part entière, dans la mesure où il s'appelle Rachid ou Mohamed, et qu'il dit qu'il croit encore en Dieu, en quelque sorte. Et encore, quand il le dit, c'est même pas toujours... Bon, moi j'ai peur à ce moment-là, hein. J'ai peur quand je découvre ce décalage de la classe politique. Je la connaissais, mais là, elle éclate. J'entends les absurdités à la fois racontées par les journalistes et à la fois par les politiques. Et j'ai la trouille, en fait. Je panique. Je me dis, mon Dieu, mais comment ça va finir?
Dounia Bouzard, comment on fait pour découvrir tout ça en 2005, sachant que juste avant la signature des accords d'Évian en 62, le général de Gaulle dit les musulmans n'ont aucune vocation à venir en métropole. Vous imaginez, si ces musulmans venaient en métropole, mon village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées. En 62, on est déjà dans cette idée que les musulmans et la métropole blanche, chrétienne, sont deux mondes complètement incompatibles.
Oui, mais c'est vrai que quand on est en 64, on n'insiste pas trop pour nous transmettre ces paroles non plus de Gaulle. Et en tout cas, moi, j'ai pas été élevée dans cette vision du monde où il y aurait une incompatibilité entre les gens de confession musulmane et les Français ou des choses comme ça. Au contraire, j'ai été élevée dans une gauche militante plutôt qui embrassait tout le monde. Moi, je suis pas appareillée, je suis pas outillée, je m'attends pas à cet éclatement, hein. Au-delà de ce qui est le plus dur quand on vit sur le terrain, c'est qu'au fond de soi, on sait à quel point les gens se ressemblent. On sait à quel point ces jeunes ressemblent aux autres jeunes et comment ils avaient envie d'être les mêmes. Et qu'au fond, c'est le regard des adultes qui leur impose une différence qu'ils n'ont pas intrinsèquement. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces jeunes pensaient comme les autres enfants, aimaient les mêmes choses, se sentaient les mêmes. Et le regard des adultes les renvoie à une histoire, une culture, un monde qui serait le leur et qui n'est pas le leur. Donc c'est d'autant plus violent de vivre ce moment-là. Moi, je me sens un intrus dans les adultes. Je vois ça de ma place à moi. Je sais que ces jeunes se ressemblent beaucoup au fond, tous, au-delà de leurs convictions, au-delà de leur trajectoire migratoire. Je sais à quel point ils étaient à une situation où ils se ressemblaient, et je vois la classe politique faire éclater toute cette jeunesse, les différencier, les enfermer dans une représentation négative, les stigmatiser. Enfin, c'est une horreur ce qu'on entend à cette époque-là. On les empêche de se définir eux-mêmes, hein, on les définit à leur place en fonction de représentations négatives. Enfin, c'est l'horreur totale. Et je panique d'ailleurs. Je me dis, waouh, on est parti pour 30 ans là. J'avais pas tort.
Aujourd'hui, ces jeunes partent en Syrie, en Irak. En 2005, ils ne partaient pas. Même après les attentats du 11 septembre, il y en avait très peu qui se radicalisaient. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la classe politique a persisté dans son erreur et a essayé de mettre en avant des figures comme ça, tutélaires, pensant que ça allait suffire. On fait de la com et il n'y a rien derrière.
Je pense que le pire, c'est qu'il n'y a pas rien derrière. C'est le poids des stigmatisations et des représentations négatives sur tout ce qui entoure l'islam ou le Maghreb. Hein, c'est une espèce d'amalgame. En fait, il n'a jamais été vraiment travaillé. Et, vous voyez, c'est pire que ça, quoi. Il y a eu ces jeunes auraient dû ne plus être musulmans pour être acceptés comme des individus à part entière. On leur demandait clairement de laisser leur lien à l'islam de côté, lien à l'islam qu'ils avaient de façon tout à fait différente selon qui ils étaient d'ailleurs. Mais du coup, cette diabolisation a provoqué de leur côté, du côté des jeunes, une surenchère, c'est une évidence. Là-dessus, je pense qu'on nous a vraiment présenté pendant des années, gauche et droite confondues, une espèce d'incompatibilité d'être à la fois français et musulman, comme si on avait un choix à faire. Et je pense que ce choix binaire qui était proposé à des jeunes qui voulaient être à la fois français et musulmans, et dont c'était le défi. Leur défi, c'était de montrer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre être français et musulman, mais je dirais même plus entre être de culture française et de confession musulmane. C'est-à-dire, ils se sentaient profondément français. Ils avaient appris à dire « je », ils définissaient ce qu'ils avaient envie d'être. C'est pas le clan qui définissait l'individu. Ils avaient une culture complètement française, mais ils voulaient rester de culture musulmane et se réapproprier cette confession musulmane à partir de leur culture française. C'était ça l'enjeu de mes premiers ouvrages, où j'étais un petit peu le trait d'union entre eux et le reste de la France, on va dire. Hein. C'est comment, finalement, en apprenant à dire « je », ils se réappropriaient le message musulman, et comment, finalement, ils en faisaient une force au sein de cette société où il y avait des gens athées, des gens juifs, des gens chrétiens, etc.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Dounia Bouzard ? Parce que, il y a peu, je m'entretenais avec une jeune fille issue d'une petite bourgade du sud de la France, de l'Hérault, dont le frère est mort en Syrie, et qui me disait « je me sens profondément française parce que je suis née en France, mais l'État m'enlève ce sentiment d'appartenance. Et lorsque je retourne en Algérie, puisqu'elle est d'origine algérienne, elle me dit « je ne me sens pas non plus algérienne, donc je me sens musulmane. Je ne suis ni française totalement, ni algérienne totalement, donc je suis musulmane. » Et elle m'expliquait que tous ces jeunes, finalement, ne se sentent plus appartenir à aucune des deux cultures et que c'est l'islam qui va faire le trait d'union, justement, entre tous ces jeunes.
Mais absolument, je pense que c'est très bien exprimé. C'est-à-dire que tous ces jeunes ont été enfermés dans un sentiment d'étrangéité du moment qu'ils restaient musulmans. On leur demandait finalement de choisir leur camp, comme si on opposait une appartenance culturelle à une confession. Comme si, pour être français, il ne fallait pas être musulman. Et le fait d'être musulman, ça voulait dire qu'on était de culture étrangère. Être à la fois de culture française et de confession musulmane, c'est quelque chose qui n'a pas été... C'est pas que ça n'a pas été pensé, c'est que personne voulait qu'on le pense, plus exactement. Pourtant, il y avait quelque chose de magnifique à jouer. Moi, quand j'ai accepté de rentrer au Conseil français du culture musulman, c'était pour faire ce mariage, pour dire comment on peut avoir appris à dire « je ». C'est pas le clan qui nous définit, c'est je définis quelle est ma place et mon rôle, et à la fois comment je lis mon islam quand j'ai appris à dire je, et quand c'est pas justement la culture clanique, la culture de clan qui me définit. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Peut-être c'était aussi une façon pour moi de recoudre, hein, de recoudre quelque chose de mon histoire. Mais du coup, j'en dégageais des capacités intellectuelles où des centaines et des milliers de jeunes se reconnaissaient à l'époque. J'étais pas seule. On pouvait faire ce travail générationnel. Les jeunes qui étaient nés en France, qui avaient grandi à l'école de la République, qui aimaient Elisabeth, Jean-Paul et David, qui se sentaient communs à ces jeunes-là, qui se sentaient les mêmes au-delà des prophètes différents. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de faire ce travail-là. Mais le regard des autres les enfermait toujours dans une étrangéité, comme si cette étrangéité était complètement incompatible et qu'il fallait choisir son camp. Est-ce que tu es musulman ou est-ce que tu es français ? Mais c'était insupportable, parce que ces jeunes, leur motivation à cette époque-là, et moi je l'avais dans mes tripes, c'était vraiment de montrer qu'ils étaient à la fois de culture française et de confession musulmane, et qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux, qu'on pouvait relire la croyance musulmane à partir de la culture française. Mais moi, c'était ça qui me passionnait. Quand tu as appris à dire « je », que c'est pas le clan qui te définit, hein, qu'est-ce que tu comprends de ton islam au fond de toi ? Qu'est-ce que tu comprends de ce verset ? Là, c'est pas le clan des Arabes qui va lire le verset, c'est toi. C'est toi. Et qu'est-ce que toi, tu comprends alors que ta meilleure amie, c'est Elisabeth ? C'était passionnant, cette époque-là. C'était passionnant. Mais ils n'ont été entendus par personne. Personne ne voulait cette réflexion. Et c'était pas seulement les Arabes traditionnels qui voulaient pas cette question. C'était pas seulement les islamistes, hein. Loin de là. C'était aussi la société française. Parce que à cette époque-là, c'est comme si pour être français, un vrai français, il fallait pas être musulman. Il fallait, les gens d'origine maghrébine qui étaient portés en vogue à l'époque, c'était que des gens qui ne croyaient plus en Dieu et qui le disaient haut et fort. Si vous aviez le malheur, et j'en ai fait les frais, de dire « je crois en Dieu », alors vous étiez tout de suite perçu comme un personnage dont il fallait se méfier, qu'il fallait cadrer, il fallait lui demander des preuves, il fallait le surveiller. Bon, et ça, ça a été une grosse erreur. Une grosse erreur.
Au point, Dounia Bouzar, que la France refuse la construction de mosquées et de fait laisse se développer dans les caves, dans les garages, dans ces zones opaques qu'on va appeler les territoires perdus de la République, des mosquées complètement illégales qui échappent à tout contrôle. On ne sait pas quel est l'imam qui professe dedans, on ne sait pas en quelle langue, on ne sait pas ce qui s'y dit. Malgré tout, malgré toutes les sonnettes d'alarme que vous tirez, on a l'impression que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, restent sourds à toutes ces problématiques. Comment expliquer ça ? C'est quand même, il y a eu les émeutes, il y a eu des ouvrages, les vôtres, il y a eu des films. Je faisais référence à Kassovitz, mais plus tard on va faire référence à ce film, Un prophète. Et malgré tout, on va continuer à mettre les gens ensemble dans les prisons, les plus radicaux. Quelle réaction ? Alors qu'on est appelé à travailler avec tous ces décideurs, comment on fait pour
la gauche et la droite sont autistes complètement, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a une incompatibilité essentielle entre la culture française et la confession musulmane. Ils n'imaginent pas d'instance où on puisse être à la fois de culture française et de se réapproprier la religion musulmane pour justement en faire une nouvelle interprétation. Ils ne laissent pas cet espace. Il faut choisir son camp, en gros, hein. Soit on est français, soit on est musulman. Il rentre dans finalement une définition de l'altérité totale. Et ils ne font pas confiance en plus en cette génération profondément de culture française qui a appris à dire je, hein, qui n'est plus dans une culture de clan. Ils ne font absolument pas confiance, sont toujours dans une suspicion. Il faudrait être athée pour être légitime, hein, même dans un parti politique. Ils les enferment dans une espèce d'étrangéité. Alors que eux voudraient montrer comment ils nous ressemblent. Enfin, tous ces musulmans à cette époque-là sont pas du tout dans une démarche de rejet ou de surenchère religieuse. Hein. On est dans une époque où, au contraire, moi je me rappelle, j'ai porté la voix de plein de jeunes filles qui étaient hyper féministes, mais qui portaient le foulard. Et on a fait plein de trucs ensemble pour dire qu'elles voulaient trouver leur autonomie de pensée, que c'était pas leur père qui commandait, que c'était pas leur frère, qu'elles feraient bac plus 8 pour être une bonne musulmane. Je me rappelle de cette époque, de slogan « Pour être une bonne musulmane, t'es obligée d'avoir au moins bac plus 8 ». Bon, c'était une époque extraordinaire, ça. Mais on avait tout le monde à dos. On avait tout le monde à dos, la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche. On était seul au monde. Moi, j'ai passé des années où on était seul au monde.
Et comment vous l'expliquez ? Dounia Bouzar, on est dans un pays profondément raciste.
C'était pas du racisme, c'était un fond anticlérical où en France on a intériorisé la représentation selon laquelle les croyants sont forcément normatifs, traditionnels, un peu archaïques, et où il faut ne plus croire en Dieu pour pouvoir penser. Et finalement, c'est comme si on disait à ces jeunes, tant que tu crois en Dieu, on peut pas te faire confiance, tu peux pas avoir une pensée rationnelle, intelligente et faire partie de la République à part entière. T'es forcément forcément un petit peu arriérés, quoi. Hein. En gros, c'était ça. Ceux qui avaient pignon sur rue comme intellectuels, c'était les maghrébines qui disaient « je ne crois plus en Dieu ». Alors là, la République disait « voilà une femme intelligente », etc. Moi, j'étais un peu le contre-exemple. Hein. J'étais au départ une enfant datée qui disait « je deviens musulmane ». Donc, j'avais pas tellement la cote. Mais c'était ça, la représentation. Et l'idée que finalement toute cette génération pouvait au contraire se saisir de la culture française, enfin de la culture tout simplement, hein, pour penser l'islam différemment, ça n'est venu à la tête de personne. Moi, j'ai été très esseulée dans mes travaux. J'ai toujours continué ma ligne, hein, fidèle, un peu solitaire quand même, hein, parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de responsabilités si j'avais déclaré que j'étais athée. Mon handicap principal, c'était de dire je suis à la fois de culture française et de confession musulmane, je l'assume, et j'ai toujours essayer de continuer à faire du trait d'union entre les uns et les autres, même si ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup transpirer. Mais ces jeunes étaient seuls. Ils ont été seuls avec, d'un côté, des aînés qui n'étaient pas de culture française, et de l'autre côté, des exemples des gens qu'ils estimaient de culture française, mais qui voyaient l'islam comme une preuve d'archaïsme. Donc, c'est une génération qui a souffert, vous savez. Parce que vraiment, leur but à eux, leur choix profond, parce que j'ai tellement passé d'heures avec eux, de nuit et de jour, leur motif profond à l'époque, c'était pas du tout de partir en Syrie. Hein. C'était au contraire d'être à la fois de culture française et de confession musulmane, et de prouver qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux. Et de prouver que d'apprendre à dire « je », ça les enrichissait dans leur compréhension de l'islam et que ça les rapprochait des autres Français, même des Français athées. Il n'y avait aucune incompatibilité ou de supériorité à cette époque-là. Ils avaient qu'un désir, c'est de montrer à quel point on se ressemblait au-delà de nos croyances, de nos incroyances, de nos... Qu'est-ce qu'on se ressemble ? C'était ça qu'ils voulaient montrer. Et on les a renfermés dans une définition d'eux-mêmes qui n'était pas la leur.
Et dans le même temps, l'Arabie Saoudite, le Qatar financent un certain nombre de projets en France. Ils vont même jusqu'à investir dans les banlieues, puisque l'État ne le fait pas. Oui. Et le monde médiatique, politique, se félicite plus ou moins de l'avenue de cet argent. Il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a eu les émeutes en 2005. Il y a eu le débat sur le voile, sur les signes ostentatoires à l'école. Puis après, il y a eu le débat sur... qu'est-ce que c'est qu'être français, comment on se sent quand on est français par rapport à quelqu'un qui ne se sent pas français. Il y a eu tous ces débats, toutes ces choses qui ont été montées en épingle par la presse. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on est dans des quartiers où il n'y a pas une jeune fille voilée à on est dans un quartier où il n'y a quasiment que des femmes voilées? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'en plus de ça, toute cette façon de surinvestir le foulard, enfin à l'époque c'était le foulard, puisque maintenant vous remarquerez que les foulards sont des preuves de résistance, hein. On est passé à un autre niveau, maintenant c'est le gilbeb. Quand on voit une fille voilée, vous êtes sûr que c'est une féministe résistante, donc vous voyez qu'on monte un peu plus chaque année. Mais je crois qu'il y a eu différents mouvements qu'on n'a pas su accompagner. Parmi les premières femmes voilées, il y avait des féministes qui voulaient montrer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre être de confession musulmane, être féministe, avoir bac plus 8 et être indépendante et ne pas se marier. En tout cas, pas se marier tout de suite. Et là aussi, elles ont été prises au piège entre des mouvements plus orthodoxes et plus traditionnels musulmans qui n'acceptaient pas leur indépendance financière et intellectuelle et une société française qui les a pas du tout soutenues. Parce qu'elle voulait garder ce foulard qui était pour elle, je crois, un ressourcement, on peut dire, à l'époque. Et la société française leur a quand même renvoyé l'idée que elle devait choisir. Soit c'était des femmes autonomes et indépendantes et lettrées, soit elles portaient le foulard. C'est-à-dire que la société française les a empêchées de redéfinir le sens de ce foulard, qui n'était pas le même sens que leur mère et leur grand-mère pour elles, hein, vraiment. Bon, c'est des années de moi j'ai milité des années à leur côté et j'ai vraiment essayé de les aider à se redéfinir librement au-delà des a priori des des caricatures négatives de la société française et au-delà de la caricature négative du milieu traditionnel musulman qui voyait d'un très mauvais œil leur indépendance et leur autonomie et leur accès aux longues études. Bon, donc elles étaient seules. Elles étaient seules. J'ai passé des années très riches à leur côté. On a perdu. C'est à la fois les anti-musulmans et à la fois les musulmans traditionnels archaïques qui finalement ont fait alliance et qui ont repositionné le débat en disant « bon, soit vous voulez être indépendant, autonome et vous n'êtes plus musulman, soit vous restez musulman et vous êtes soumis au groupe ». Le dernier mot n'est pas donné, mais là pour le moment, ce combat est mis de côté. Elles sont silencieuses ces femmes aujourd'hui. Les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui partageaient ce combat. Tout le travail qu'on avait entrepris ensemble à cette époque-là, c'était de montrer qu'on pouvait être à la fois moderne, profondément française, profondément de culture française, avoir appris à dire « je » et être de confession musulmane, ce qui demandait effectivement de redéfinir un peu la compréhension de l'islam, puisque c'était « je comprends mon islam » et pas « la société de type clanique, classique, définit l'islam à ma place ». C'était passionnant et ça aurait fait un apport, une richesse pour la société française. Bon. C'est vrai que au lieu de ça, on a eu des Français non musulmans qui finalement empêchaient ces jeunes femmes d'être à la fois féministes et musulmanes, et des musulmans traditionnels qui, de leur côté aussi, empêchaient, demandaient à ces femmes de choisir leur camp. Soit elles étaient musulmanes, soit elles allaient être ingénieures. Bon. Et toute cette époque, moi je m'en souviens avec beaucoup d'émotion parce que c'était très fort. Je pense que ça aurait été un tournant dans la société française, mais on a eu absolument aucun soutien. Et tous les interlocuteurs, finalement, présentaient l'islam comme incompatible avec le fait d'apprendre à dire « je », le fait de faire 8 ans d'études, le fait d'être libre, d'être une femme libre. C'est comme si on devait choisir son camp, être une femme libre ou être musulmane. C'était ahurissant que tous les interlocuteurs, français, laïcs, musulmans, traditionnels, vieux, jeunes, posent le débat dans les mêmes termes et demandent aux gens de faire un choix. Et c'est ce choix que cette génération voulait pas faire à l'époque et dont moi j'étais porteuse en fait.
Dunia Bouzard, vous parlez d'échec, moralité, je sais pas si c'est la moralité de l'histoire ou le résultat des courses ou la cerise sur le gâteau. En 2014, vous créez le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. C'est un échec, c'est la création de ce centre.
Ben, c'est l'échec de toute la société française d'avoir à créer cette association, c'est une évidence. C'est une évidence, on n'a pas su faire lien, on n'a pas pu montrer ce qu'il y avait de commun, et ces jeunes ne demandaient qu'une chose, c'est de montrer que, au fond, qu'est-ce qu'on se ressemble au-delà de nos différences. C'était ça, la demande profonde en un mot. Et ça, on a tous les politiques, de droite, de gauche, d'extrême droite, ont été vraiment dans l'aveuglement, la cécité totale, face à cette demande qui était pourtant au cœur de la République française.
Merci Dunia Bouzard, à demain pour la fin de cette série d'entretiens.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alain Lefkovitch avec Dunia Bouzard. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.